au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour et bienvenue dans la troisième émission au fil des pages consacrée au livre d'Evelyne Sulraux, Pilule, Sexe, ADN, trois révolutions qui ont bouleversé la famille, publié chez Fayard en avril 2006. Evelyne Sulraux, bonjour. Vous êtes correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, membre honoraire du Conseil économique et social et puis également cofondatrice du mouvement français pour le planning familial. C'était en 1956 et nous fêtons cette année les 50 ans de la création de ce mouvement. Alors, cette troisième et dernière émission au fil des pages est consacrée à la quatrième grande partie de votre ouvrage, La Révolution génétique. Avant d'en venir à ce sujet, j'aimerais savoir, Evelyne Sulraux, vous qui avez été à l'origine du mouvement de la libération de la femme grâce à la légalisation de la pilule, quel regard portez-vous sur ces 15 dernières années? Quel regard portez-vous sur la cellule familiale? Qu'est-ce qui vous touche vraiment?
Alors, naturellement, je vais parler de cette troisième révolution, la révolution génétique. Mais auparavant, je voudrais dire tout de même que si je considère la révolution contraceptive comme une chose absolument positive et irréversible, c'est quand même assez désolant de s'apercevoir qu'elle a été un peu falsifiée dans ces dernières années, par exemple. En ce sens que ce que nous avons voulu faire en donnant aux femmes la possibilité de planifier leur vie...
Avec le mouvement français pour le planning familial.
Avec le mouvement pour le planning familial. J'insiste sur familial. S'est transformé de plus en plus dans une sorte de réclamation pour la femme, par exemple, du droit à l'avortement. Pour nous, l'avortement était... un mal que nous allions éliminer ou réduire vraiment dans des proportions considérables en permettant aux femmes de se prémunir contre les grossesses indésirées. Et nous prévoyons qu'on arriverait à avoir 30 000, 40 000 avortements incompressibles par an de personnes qui auraient été surprises, surtout les très jeunes, ou, etc. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a 215 000 avortements par an.
Actuellement.
Et qu'on s'aperçoit que les personnes qui s'occupent du planning familial parlent beaucoup plus de l'avortement que de la contraception.
En fait, le visage...
Et on s'aperçoit surtout que, enfin, idéologiquement, oui, les féministes se sont accrochées à l'avortement comme à la lutte suprême pour arriver à montrer leur victoire, parce qu'elles ont eu la fameuse phrase « mon ventre est à moi ». Ce qui sous-entendait « ce qui est dedans est à moi », ce qui sous-entendait qu'elles étaient maîtresses complètement de l'embryon, et que l'embryon n'appartenait pas à l'homme qui l'a fait pour moitié.
Qu'elle était seule responsable.
Et donc, elles évacuaient le père, elles évacuaient la religion, etc., etc., pour affirmer, donc, une sorte de liberté très, très forte de la femme, au point que... il y a eu, par exemple, dans les romans de ces dernières années, le nombre de romans où il y a une scène d'avortement comme si c'était une sorte d'ordalie par laquelle les femmes devaient passer pour s'affirmer totalement libres. Et ce qui est beaucoup plus désagréable, c'est que dans l'éducation sexuelle des adolescents, on leur parle de l'avortement, du droit à l'avortement, alors qu'on devrait avant tout leur dire...
Leur parler de prévention.
Mais bien sûr, de prévention. Parce que c'était vraiment ça que nous voulions. Et c'était une sorte de morale de la responsabilité. Or, nous vivons dans une société qui semble être de moins en moins responsable, ou qui fait porter à la société la responsabilité. Je me rappelle cette étudiante qui un jour m'a dit... « Oh, la pilule de maman, ça m'ennuie, mais si je suis enceinte, la société n'a qu'à me faire avorter. »
Donc finalement, l'avortement est vécu comme une contraception bis.
Non, pire que ça. C'est vécu comme quelque chose que la société doit rembourser. Parce que rappelez-vous que les 213 000 avortements par an sont remboursés par la Sécurité sociale. Donc là, il y a eu, si vous voulez, un combat qui a changé tout à fait de forme.
Actuellement, le MFPF cautionne
tout à fait l'avortement. Et en fait, vraiment, quelque chose... Je crois qu'il faudrait reprendre cette question de responsabiliser les adolescents et les jeunes, non seulement vis-à-vis de leur sexualité, mais vis-à-vis de la reproduction humaine. Les garçons aussi, parce que maintenant, on entre donc dans cette troisième révolution, qui est la révolution génétique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ?
Une révolution que l'on vit actuellement. Hein.
Oui, qui est absolument inéluctable, elle va se développer, mais tout le monde y résiste. Elle est arrivée sans crier gare, absolument, sans que personne ne la réclame, et elle gêne beaucoup de gens. Comment est-ce que ça s'est produit ? Eh bien, d'abord, on a découvert l'ADN. L'ADN a été découvert en 1953, oui. C'est donc ce long ruban en double hélice que nous avons dans chacune de nos cellules.
Qui forme notre identité.
Qui forme le génome humain. Mais il a fallu attendre 1985 pour qu'un Anglais, Jeffreys, découvre le moyen de découper une toute petite partie du génome qui porte un nom très compliqué, anglais, qu'on désigne par des initiales, toute petite partie qui est unique chez chaque individu. Mais il a découvert ça en 1985. Et donc, ça a permis assez rapidement de faire des identifications, par exemple, pour la police scientifique.
Lors d'enquête.
Parce que nos cellules, quand on arrive à trouver cette petite partie de l'ADN, sont absolument uniques, différentes d'un être à l'autre. Puis, en 1991, le même Jeffreys a découvert que cette petite partie identifiante, en quelque sorte, répondait aux lois de Mendel, c'est-à-dire qu'elle pouvait permettre d'établir la filiation paternelle d'une façon aussi certaine que la filiation maternelle. Alors, si on pense que depuis des millénaires, on avait des épopées, des drames, des vaudevilles, des romans, tout qui tournait autour de l'incertitude du père ou du père qui, tout d'un coup, « Ah, papa, vous savez, qu'on retrouve après, etc. »
Oui.
Bon, c'est un bouleversement complet. Maintenant, le père est certain. Le père peut être absolument certain. Encore faut-il apporter la preuve scientifique. Alors, les premières personnes qui ont été extrêmement gênées par cette découverte, ce sont les juristes.
Voilà, il y a plusieurs personnes qui ont été gênées.
Mais
hein.
Oui, voilà. Parce que jusque-là, les juristes avaient fabriqué la famille en mettant l'accent sur le personnage principal qui était le moins sûr. Le père qui était incertain, on allait en faire vraiment la pierre angulaire de cette construction. Et c'est lui qui allait donner son nom à la famille, c'est lui qui allait faire que les enfants soient légitimes ou naturels ou adultérins, enfin, etc., oui. etc. Tout tourne autour du père et ce sont les juristes qui faisaient le père. Et alors, il y avait encore un adage
très important. Hein, c'est un
adage en latin, « Pater is est quem nuptiae demonstrant », celui-là est le père que désignent les noces, c'est-à-dire le père, c'est le mari. Donc, du moment où une femme faisait un enfant, si elle était mariée, le mari était père.
Automatiquement,
c'est une construction juridique. Quand, depuis des centaines d'années, les juristes ont fait le père, ils ont été assez frustrés à l'idée que maintenant, on allait leur apporter d'un laboratoire la preuve que toute leur belle construction ne servait à rien. Alors, ils ont parlé des secrets de famille, ils ont parlé de la paix des familles, qu'on ne devait pas troubler, etc., etc., et mensonge pour mensonge, leur construction devait subsister. C'est impossible. Je veux dire qu'il est impossible de cacher complètement une vérité scientifique aussi importante. Alors, en France, il est toujours impossible à un homme qui voudrait vérifier s'il est le père d'un enfant de le faire, parce que, justement, les magistrats veillent. Mais maintenant, ils n'ont qu'à aller sur Internet, Il trouve là l'adresse d'un laboratoire en Angleterre ou en Belgique ou en Amérique, etc. On leur envoie un petit kit avec de quoi prendre leur salive et celle de l'enfant, etc.
Oui.
Et on leur envoie la réponse par-dessus les frontières.
Il y a le commerce de la filiation.
Oui, et puis c'est surtout que tout ce que les juristes peuvent raconter, ils n'y peuvent rien. Là, actuellement, par exemple, si en France, un homme ne peut pas établir sa paternité, il le peut en Belgique, en Allemagne, en Angleterre. Mais avec ce système-là, il le sait. Il l'apprend, si vous voulez. Et donc, il y a une sorte de découverte par l'individu, par la science, qui passe au-delà de tout ce que les juristes peuvent... Donc, il va falloir qu'ils légifèrent le moins possible.
Ce qui est très particulier, c'est que, quand même, ces personnes-là ont été ensemble à un moment donné. Il faut passer par une méthode scientifique pour prouver qu'ils ont eu un enfant.
Il y a beaucoup de jeunes hommes qui, par exemple, apprennent d'une amie qui voit de temps en temps qu'elle attend un enfant et elle dit « c'est le tien, il est de toi ». Ils disent « je ne demande pas mieux que de le reconnaître et de l'élever, mais je veux être sûre qu'il est de moi ». C'est une réflexion de notre temps, ça.
C'est vraiment un bouleversement du couple.
Absolument, parce que cette autrefois est encore très proche. Les hommes se gardaient, derrière un bouclier de loi absolument extraordinaire, des réclamations des femmes enceintes. Par exemple, quand une jeune femme enceinte désignait un homme en disant « c'est lui le père de mon enfant », quand elle n'était pas mariée, il se munissait d'un bon avocat, lequel opposait ce qu'on appelait une fin de non-recevoir. Alors on disait qu'on faisait témoigner la concierge, les voisines, etc. Cette dame recevait beaucoup d'hommes, elle menait une vie dissolue, donc fin de non-recevoir. On dressait cette muraille. Et puis après, si cette muraille n'était pas dressée, il y avait encore beaucoup d'autres difficultés. Et ce qu'on appelait les adminicules, c'est-à-dire les moyens de franchir ces remparts, étaient extrêmement difficiles. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup de mères célibataires qui n'arrivaient pas à faire reconnaître leur enfant. Et l'enfant lui-même... Quelquefois, elle savait très bien qui était le père, elle le disait à l'enfant. Et l'enfant n'avait que 2 ans après sa majorité pour faire reconnaître sa paternité à son père.
À son père.
Et maintenant, il a 10 ans. Donc, si vous voulez, c'est tout récent. Hein, ça, tout récent. Donc, on s'aperçoit que les hommes ne peuvent plus rejeter, si vous voulez, les femmes enceintes comme ça, dans une sorte de no man's land épouvantable. Et d'autre part, ils ont aussi la curiosité de savoir s'ils sont vraiment
pères. Bien sûr, c'est à double sens. Oui. C'est aussi une revanche pour eux, quelque part.
C'est une extraordinaire revanche. Et donc, nous en étions à ceux qui n'acceptent pas beaucoup. Il y a donc les juristes. Enfin, maintenant, ils l'acceptent en jurisprudence. C'est-à-dire que... peu à peu, on accepte la preuve scientifique. Mais enfin, il faut quand même aller devant le tribunal, sauf si, on traverse les frontières comme ça, en se servant d'Internet et des kits. Et dans mon livre, je dis que l'homme qui ouvre la lettre lui disant « oui, vous êtes le père de l'enfant » ou « non, vous n'êtes pas le père », c'est un petit peu comme la femme qui ouvre son test de grossesse. Parce que pendant longtemps, le test de grossesse n'était pas libre. Il fallait le communiquer à la police parce qu'on avait peur qu'elle avorte. Maintenant, elle achète son test de grossesse et puis elle voit son résultat. Ben, c'est un petit peu « je vais être mère ou je ne vais pas être mère ». Et maintenant, l'homme, il ouvre une lettre et puis il dit « voilà, je suis père ou je ne suis pas père ». Donc, ceci n'est pas encore rentré dans les mœurs juridiques, comme je vous le disais. Et puis, les médecins s'en méfient beaucoup. Parce que pendant toutes les années 80, les médecins ont joué avec le génome sans beaucoup de scrupules. Par exemple, comme on voulait rendre service avant tout au couple, quand l'homme était stérile, on a énormément inséminé, avec son autorisation d'ailleurs, des femmes avec le sperme d'un donneur. C'est ce qu'on appelle l'IAD, l'insémination artificielle avec donneur. Il y a quand même 40 000 enfants nés comme ça en France. Il n'est pas venu à l'idée pendant toutes les années 70 et 80 où se faisaient les IAD, les inséminations artificielles avec donneur, il n'est pas venu à l'idée que l'enfant voudrait savoir qui était son géniteur. Le géniteur, c'était une sorte d'abstraction sans aucune importance, puisqu'il allait avoir un père légal, un père affectif, un père éducateur, un père tout, quoi.
Et pas biologique, pour le coup.
Pas biologique, mais il ne le saurait jamais. Et maintenant, il y a même dans les familles qui ont eu recours à l'insémination artificielle avec donneur, des parents demandent à connaître le géniteur parce qu'ils veulent pouvoir le dire à l'enfant, parce qu'il y a maintenant, émerge peu à peu, l'idée d'un droit de l'enfant à connaître ses origines. C'est très sensible dans l'adoption. Il faut dire que de plus en plus d'enfants maintenant adoptés en France proviennent de l'étranger,
oui,
et qu'on ne peut pas prétendre avoir un enfant comme
surtout avec
ça,
la question de couleur de peau ou d'origine.
Voilà. Mais il y a aussi que, alors que la France a signé en 1990 la Convention internationale des droits de l'enfant, qui dit dans son article 7 « Tout enfant a le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux dans toute la mesure du possible », la France ne donnait pas le droit à l'enfant de connaître ses parents, puisque la France avait à l'accouchement sous X, permettait à des femmes d'accoucher sans donner leur nom, auquel cas les enfants ne peuvent jamais savoir ni qui est leur mère, ni qui est leur père, a fortiori. Et maintenant, on est en train d'évoluer sur ce sujet.
Mais une évolution aussi au niveau des parents qui prennent sur eux de donner l'identité des parents biologiques quand c'est une adoption.
Absolument. Si vous voulez, émerge la famille qui est composée des parents et des enfants, est en train de basculer. Elle a été pendant des siècles fondée sur le mariage. Puis, il y a eu de moins en moins de mariages, mais c'était quand même le couple. Maintenant, elle est fondée sur la filiation. Alors, ça s'est exprimé d'une façon extrêmement forte dans la loi de 2002, qui est d'ailleurs la loi de Ségolène Royal, qu'il a prise juste avant de s'en aller, et qui dispose de l'autorité parentale en disant que l'autorité parentale est aux deux parents.
C'est la coparentalité.
C'est la coparentalité, que les parents soient mariés, pas mariés, ensemble ou séparés, ou divorcés, etc. Donc, le fameux couple parental, dont avant on se méfiait beaucoup, maintenant est considéré comme le couple éducateur. Et c'est une révolution formidable. Alors, elle n'est pas encore complètement dans les mœurs, en ce sens que les juges n'aiment pas beaucoup. La norme maintenant, le principe de base, c'est la coparentalité.
Avec donc, une notion d'apaisement lors de la séparation, c'est-à-dire que le père et la mère sont séparés.
Ils doivent s'entendre. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, on devrait encourager beaucoup plus la médiation. Parce que la médiation vient de la volonté des deux personnes qui se séparent d'être quand même tous les deux éducateurs. Mais c'est un changement énorme. Donc maintenant, la filiation. Il y a eu une loi votée en 2004 qui s'appelle l'ordonnance de 2005 et qui va prendre effet à partir du 1er juillet de cette année 2006.
Tout à fait.
Et cette loi sur la filiation montre bien que maintenant, la famille est fondée sur la filiation maternelle ou la filiation paternelle. Donc, l'enfant est déterminé, le mariage n'est plus que l'ombre de ce qu'il a été. Alors, naturellement, ceci, c'est l'entrée donc, de la génétique dans la structure, dans l'architecture de la famille, mais ça ne ravit pas, par exemple, les chrétiens et surtout les catholiques, pour qui c'était le mariage qui était sacré, l'alliance.
C'est-à-dire ce l'alliance. Liait la famille.
Non, c'est pas seulement ça, mais c'est un sacrement. Dans le mariage catholique, les époux se donnent le sacrement du mariage l'un à l'autre. Le mariage est un sacrement et le baptême est un sacrement.
Et ce que vous disiez, c'est que c'est ce qu'on ne retrouvait pas forcément dans les autres religions et de ce fait, ça ne posait pas trop de problèmes.
Oui, disons que, par exemple, pour les protestants, le mariage n'est pas un sacrement, c'est une bénédiction. Ils ont été jusqu'à, dans les années 80, bénir des concubins, par exemple. Bon. Mais maintenant, tout récemment, la fédération protestante s'inquiète justement de cela et du fait de l'instabilité des familles, parce que on s'aperçoit que les couples, c'est quelque chose de tellement fragile que l'important, c'est justement d'essayer de faire en sorte de réhabiliter quand même ce lien de couple qui est très malmené. Mais pour l'instant, la réflexion, si vous voulez, vient surtout du fait qu'on s'aperçoit que les enfants de parents séparés et qui ont été confiés à un parent et ont vu très peu l'autre parent, ne vont pas bien.
Alors justement, on va terminer l'émission sur ce sujet-là. Les enfants, que deviennent les enfants ?
Alors, c'est vraiment, je dirais, la raison d'être de tout mon livre. C'est vraiment de montrer que je ne veux pas dire que du moment où on a divorcé, les enfants iront mal. C'est pas du tout ça. Ce que je veux dire, c'est que les psychologues se sont beaucoup prononcés sur toutes ces questions. Mais maintenant, les sociologues peuvent dire leur mot parce qu'il y a un nombre d'enfants dont les parents se séparent qui est suffisant pour qu'on fasse des enquêtes sur de très grands nombres. Il y a environ maintenant plus de 3 millions d'enfants dont les parents se séparent avant qu'ils aient 16 ans. Donc, ce sont des grandes masses. Dans les pays anglo-saxons, dans les pays nordiques, en France même, on a fait des études en comparant la santé psychique, la scolarité, la socialisation des enfants selon leur environnement familial. Alors, je suis persuadée que des parents séparés, bien séparés, qui continuent à s'occuper tous les deux des enfants, n'auront pas ce que je vais décrire. Mm-hmm. Mais comme beaucoup de séparations se sont mal
se font dans
passées,
la douleur,
et que l'enfant a perdu souvent l'éducation venant d'un des parents.
Qu'il est ballotté entre l'un et l'autre partie, entre l'une et l'autre partie.
Non, ça, c'est ça qu'est la coparentalité. Il faut qu'il soit entre ballotté.
Oui.
Il ne faut pas qu'il soit justement avec un seul parent, parce que être coupé d'un parent, c'est être coupé de ses grands-parents. Par exemple, il y a en France, maintenant, presque tous les enfants ont des grands-parents et souvent des arrière-grands-parents, à cause de la longévité qui a augmenté. Mais du moment où on est coupé de son père, on est coupé de ses grands-parents paternels. On n'a plus de cousins, on n'a plus donc les tantes de ce côté-là. La famille d'un enfant, c'est la famille de sa mère et la famille de son père. Et donc, peu importe qu'il aille de l'un à l'autre, il faut qu'il connaisse les deux parties. Tandis que là, on a confié les enfants majoritairement à la femme, et beaucoup d'enfants ont été coupés de ce que j'appelle la transmission de la culture venant de leur père. Parce que l'éducation, ce n'est pas seulement d'apprendre à un enfant ce qui est propre et ce qui est sale, ce qui est bien et ce qui est mal quand il est tout petit. C'est aussi une transmission d'une culture. On ne va pas laisser les enfants ne se cultiver que devant la télévision et dans les jeux vidéo et à l'école. Il faut véritablement qu'il y ait une transmission de ce qui a été reçu comme la langue maternelle, la culture, une spiritualité, une appartenance, je ne sais pas moi, géographique, etc., etc.
Alors, que ressort-il alors de ces...
Ce que je voudrais vraiment faire ressortir, c'est que ce que les parents doivent à l'enfant, c'est de lui donner une identité. Cette identité est triple. Identité génétique, cet enfant a un seul père génétique et une seule mère génétique, et on ne peut pas le changer. C'est irrémédiable, c'est irréversible, c'est absolument indéniable, et ça ne changera pas, inaliénable, irréfragable. Une identité sociale, l'enfant va avoir un nom de famille, un nom de famille. Bon, il va avoir un logement, une adresse, un foyer. Et ses parents vont être ceci, cela, etc., etc. C'est son identité sociale. Et puis, une culture. Et il est certain que, avec par exemple les immigrés, on voit très bien que, à la fois, les parents qui ne transmettent pas leur culture ont des enfants qui n'arrivent pas à vraiment avoir une vraie famille parce qu'ils sont complètement du côté de l'école. Et si, au contraire, ils transmettent que leur culture à eux, qui est différente de celle de la République française, ils vont avoir des enfants qui sont comme séparés dans une communauté, etc. Donc, on voit à quel point il est important que l'enfant reçoive sa culture à la fois de l'école et de la famille et qu'on arrive à lui donner une identité culturelle qui soit conforme à toute son histoire derrière lui, à ses origines et tout, et en même temps au milieu de la République dans laquelle il vit.
Et si ce n'est pas le cas, alors comment grandit cet enfant ? Il va grandir quand même, mais de manière amputée.
On voit à quel point l'environnement familial est capital. D'abord, cette transmission donne le sens de la durée. Dans une société extraordinairement individualiste où on a beaucoup insisté sur l'intensité et l'instant, la famille, c'est la seule chose qui transmet. On transmet la vie, mais on transmet autre chose que la vie quand même. L'éducation, c'est quand même conduire hors d'eux, etc. Et du point de vue anthropologique, la famille humaine, elle comporte toujours la différence des sexes pour les parents et la différence de génération pour les enfants. Donc, ça donne une idée d'alliance entre hommes et femmes et en même temps de transmission de génération en génération. Alors, c'est certain que si on veut tout brouiller, là, on aura des enfants qui n'auront plus du tout le sens de leur identité.
Donc, l'idée de votre ouvrage, c'est de pouvoir transmettre ces valeurs, de dire attention.
Enfants en France qui voudront, ils pourront les jeter aux chiens si ça ne leur plaît pas du tout et renoncer. Mais ce que je veux dire, c'est que un enfant qui peut dire « chez moi, on dit que, on pense que », il a un immense avantage sur un enfant à qui ses parents n'ont donné aucune éducation. Et c'est pour cela qu'on dit de plus en plus qu'il y a des enfants qui ne sont pas de repères. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est laid, que ce soit dans l'apprentissage du vocabulaire, de la langue, de ce qui nous environne, etc., etc. On a absolument besoin d'être l'enfant de ses parents, à un moment, même si après, on s'en détache.
Alors, comme l'évolution de la famille est en mutation perpétuelle, quel pourrait être le schéma à venir dans les 20-50 années à venir ?
La famille, les formes, vous voulez, juridiques, etc., sont en mutation. Mais la famille, elle n'est pas en mutation. C'est toujours un homme, une femme, des enfants, et puis des aïeux, des grands-parents, etc. Je pense que le temps des grands-parents, d'ailleurs, est de plus en plus net. On va en parler de plus en plus pour une raison très simple, c'est que les 68-ards vont devenir grands-parents. Or, comme c'est une génération très nombreuse, les bébés-boomers, qui a fait éclater les maternelles, les écoles, qui a fait éclater les universités, etc., elle a toujours tout balayé. Quand elle va rentrer à la retraite, elle va faire casser les caisses de retraite. Mais ils vont devenir grands-parents et tout d'un coup, vous allez entendre parler des grands-parents comme étant la chose la plus importante qui soit, parce qu'ils vont devenir, eux, grands-parents. Mais c'est vrai que c'est important aussi. Maintenant, il n'y a pour ainsi dire pas d'enfant qui n'ait pas ses quatre grands-parents. Mais il m'est arrivé, par exemple, dans les années 85, par là, de faire une conférence à des personnes âgées et où j'avais dit combien étaient nombreux les grands-parents paternels par le fils qui ne voyaient plus leurs petits-enfants. Et après, j'ai vu venir à moi tout un groupe d'hommes et de femmes âgées me disant « qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut faire un dossier ?» etc. parce qu'ils ne voyaient plus leurs petits-enfants. Et c'est une souffrance extrême, surtout qu'on n'a pas du tout démérité là. Et là, je crois que la dimension lignée de la famille, devant la fragilité du lien conjugal, va sans doute s'accentuer.
Merci Evelyne Sulraud de nous avoir accordé tout ce temps dans notre studio. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons auparavant pu enregistrer deux autres émissions dans lesquelles vous nous retracez la période pré-révolutionnaire ainsi que la révolution contraceptive et sexuelle. Tous ces thèmes sont réunis dans votre ouvrage dont je rappelle le titre « Pilule, sexe, ADN, trois révolutions qui ont bouleversé la famille » publié chez Fayard en avril 2006. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Retrouvez toutes nos émissions téléchargeables gratuitement. Au revoir Evelyne Sulraud et à une prochaine fois. Merci.